RFI, il est 6h30 à Goma et Pretoria, 4h30 en temps universel. Et l'actualité africaine, c'est avec vous, Charlotte de Rouen, bonjour.
Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous. Dans l'est de la RDC, pour la première fois depuis près d'un an, les forces congolaises ont eu recours à leurs hélicoptères dans les combats qui les opposent aux rebelles du M23, des combats qui se sont poursuivis dans le territoire de Lubero. Plus d'une quarantaine de morts dans le naufrage d'une baleinière en fin de semaine dernière. Une centaine de disparus dans la province congolaise de l'Équateur. La société civile sur place dénonce la surcharge de l'embarcation et le manque de gilets de sauvetage. À Madagascar, la commission électorale dénonce un piratage de sa plateforme. La CENI avait indiqué que la candidate du pouvoir avait remporté le scrutin dans la capitale avant que les résultats contraires ne s'affichent en faveur du candidat de l'opposition. On y revient. Au Tchad, le bras de fer se poursuit entre les médias privés et l'autorité de régulation. Journée de grève aujourd'hui dans la presse alors que les élections législatives se profilent. Et puis en Afrique du Sud, après la mort de 20 jeunes ces dernières semaines, un chef traditionnel demande un moratoire de 2 ans sur la circoncision. Dans l'est de la RDC, les violents affrontements se sont poursuivis hier entre l'armée congolaise appuyée par les milices locales des Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces combats ont eu lieu dans le territoire de Lubero, à plus de 150 km au nord de Goma. Des affrontements qui ont redoublé d'intensité depuis l'échec de la réunion tripartite à Luanda, qui devait réunir Paul Kagame et Félix Tshisekedi autour du président angolais il y a une semaine. Les précisions de notre correspondant à Goma, Héritier Baraka.
Ces affrontements ont été concentrés sur l'axe Mamba Sanduta, sur la RND, menant vers Lubero Centre, chef-lieu du territoire de Lubero et la grande ville de Butembo. Pour la première fois depuis pratiquement une année, l'armée a fait recours aux hélicoptères de combat. L'objectif, selon les FARDC, cibler les regroupements rebelles et nettoyer la zone. Des sources indépendantes rapportent des combats d'une grande intensité avec l'utilisation de l'artillerie lourde toute la journée jusqu'à tard dans la soirée. L'armée qui avait récupéré il y a 2 jours les villages de Mambasa et Kanyabi n'a pas pu progresser vers Animbongo comme elle le prévoyait. Les rebelles auraient reçu des renforts et réussi à stopper l'avancée des FARDC, selon les sources locales. Ces affrontements ont provoqué un nouvel afflux de déplacés. L'offensive en cours des FARDC est dirigée par le général-major Bruno Mandevou, qui vient de prendre le commandement des opérations militaires sur le front nord. Il a remplacé depuis vendredi le général-major Chico Jérôme. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Dans le nord-est de la RDC, dans la province de l'Équateur, cette fois plus d'une quarantaine de morts dans le naufrage d'une baleinière. En fin de semaine dernière, une centaine de personnes sont également portées disparues. Partie du port de Lolo dans le territoire de Lingende, le bateau se rendait en direction de Mbandaka lorsque il a chaviré. Les autorités attribuent la cause du naufrage à la surcharge du bateau. Pour Joseph Bakoyo Lokondo, membre de la société civile, c'est surtout l'absence de gilets de sauvetage qui a entraîné un tel bilan humain.
Comme on l'a dit, ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. C'est la surcharge, c'est la circulation nocturne. Le vice-premier ministre, le ministre des Transports, avait pris un arrêté pour demander à tous les voyageurs fluviaux de pouvoir se procurer de gilets de sauvetage. Mais cette décision semble être ignorée par les autorités politico-administratif de la province de l'Équateur qui cède à la corruption des gens voyagés sans sauvetage. Voilà, aujourd'hui, nous déplorons plus de 40 morts. Les autorités politiques doivent avoir un œil regardant sur le commissaire fluvial. C'est lui qui veille sur les navigations fluviales. Beaucoup d'armateurs se sont familiarisés avec le commissaire fluvial et d'autres donnent de l'argent pour laisser les passagers voyager comme ça. Ils disent que non, bon, les gilets de sauvetage coûteraient cher. Mais aujourd'hui, nous comptons des morts. Moi, je pense que les autorités doivent voir les manières de faire les choses pour protéger les vies humaines.
Joseph Bayoko Lokondo, joint par Willy Diallo pour RFI. Après les élections municipales à Madagascar, le climat s'est tendu dans le week-end autour des résultats contraires publiés sur le site de la commission électorale concernant Antananarivo. Vendredi, lors d'une cérémonie officielle, la CENI a proclamé la victoire provisoire de la candidate du régime, Arelale Ramanmansou. Mais samedi soir, le site de la commission électorale a affiché les résultats en faveur de Toots Ravalmanane, le fils de l'ancien président Marc Ravalmanane et principal candidat de l'opposition à la mairie de la capitale malgache. La CENI dénonce un piratage de son serveur, Pauline Le Troquier.
Vers 19h ce samedi soir, la publication est venue perturber la sérénité du camp présidentiel dont la candidate avait été donnée la veille confortablement en tête à Antananarivo. Sur un document issu du site officiel de la CENI, relayé massivement en ligne, l'opposant Toots Ravalmanane apparaît finalement gagnant avec plus de 42% des voix. Il a fallu moins d'une heure à la CENI pour supprimer le document, puis dénoncer aussitôt un piratage de son serveur, Souave Andjamaroutfik, son rapporteur général.
C'est une volonté de déstabilisation parce que Tanas, c'est un lieu, c'est un capital stratégique sur le plan politique à Madagascar. Nous rassurons le peuple malgache, la décision des urnes, c'est ce que nous avons publié. La vérité, c'est la victoire au candidat Ravalmanane dans la circonscription de Tanaville.
Depuis l'ouverture d'une enquête, un technicien informatique du TIM, le parti de Toots Ravalmanane, a été arrêté dimanche matin. Hier soir, il était retenu au service de cybercriminalité de la gendarmerie pour publication mensongère. Il avait publié sur Facebook les résultats donnés en faveur de l'opposant. Pour le chef de l'opposition parlementaire, Siten Ranjanasunyak, cette situation ne fait que prouver l'irrégularité du processus électoral.
This is just a joke.
C'est une farce de parler d'un piratage. La vérité est juste apparue soudainement samedi et ils veulent le cacher. Toutes les fraudes que nous avons vues, la CENI en est complice.
L'accès au site de la CENI a été entièrement suspendu alors que la publication des résultats provisoires pour les autres provinces de l'île se poursuit cette semaine. Pauline Troquier, Antananarivo. RFI.
Au Mozambique, c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel doit annoncer les résultats des élections présidentielles et législatives, des résultats d'ores et déjà contestés par l'opposition. Venancio Mondlane revendique la victoire à la magistrature suprême et appelle depuis deux mois à la mobilisation de ses partisans, des manifestations qui ont déjà coûté la vie à au moins 130 personnes, la plupart tuées à balles réelles selon une ONG locale. Aujourd'hui, l'opposant appelle de nouveau à un soulèvement d'ampleur si la Cour constitutionnelle donne bien vainqueur le candidat du parti au pouvoir, malgré les multiples irrégularités dans le processus électoral. J-6 avant les élections législatives au Tchad, et ce lundi est une journée blanche, grève générale pour les médias privés, de la presse écrite, la radio et les sites en ligne. À l'appel de plusieurs collectifs et syndicats, les médias s'insurgent contre le traitement que leur réserve la AMA, l'autorité de régulation des médias dans le pays. Les précisions de Victor Moria.
Dans le conflit qu'il oppose aux médias privés en ligne, la AMA a perdu la première manche vendredi dernier après que la Cour suprême ait suspendu son interdiction de diffuser des contenus audiovisuels. Mais les médias en ligne, en grève depuis le 7 décembre, craignent que la AMA ne s'arrête pas là et poursuivent donc leur mouvement. Gérard Ketong d'Aliam est rédacteur en chef d'une Jam Post.
On reste toujours vigilant. La AMA va peut-être faire appel, je ne sais pas, mais nous maintenons la grève jusqu'au mardi. Mais il faut que du côté de la Hama puisse également accepter cette décision de la Cour suprême et qu'elle annule tout simplement la décision numéro 55.
Lundi, la grève est rejointe par tous les médias privés, radio et presse écrite du pays pour réclamer également les subventions prévues par la loi non versées cette année par la AMA. Ils demandent entre 1 et 4 millions de francs CFA par média. Judas Alaoundoum, président du groupe médiatique Le Visionnaire et du patronat de la presse tchadienne, n'hésitera pas à aller encore plus loin.
Si aucune solution n'est trouvée, nous allons faire un blackout. Nous allons faire un blackout sur l'ensemble du territoire national. Les médias ne vont pas parler des élections qui sont en cours. Les médias vont purement et simplement arrêter de couvrir tout ce qui est élection du 29 décembre.
Mardi, les médias privés promettent de rendre leur badge et gilet donné par la AMA pour ces élections. Victor Moria, N'Djamena, RFI.
Au Nigeria, 32 morts, c'est le nouveau bilan des mouvements de foule survenus samedi lors de deux distributions de denrées alimentaires. On le rappelle, le Nigeria connaît l'une de ses pires crises économiques. Les denrées des produits alimentaires, les prix des denrées alimentaires connaissent une très forte inflation. En Afrique du Sud, la circoncision en question après la mort mort de 20 jeunes ces dernières semaines. Un chef traditionnel de la province du Cap-Oriental dans le sud du pays demande un moratoire de 2 ans sur cette pratique. La circoncision traditionnelle est un rite d'initiation très répandu à l'âge adulte chez les jeunes Rossa. Mais l'objectif est de réfléchir donc à un meilleur encadrement pour qu'elle puisse avoir lieu en toute sécurité, Valentin Hugues.
Les débats autour de la circoncision traditionnelle et de ses risques ne sont pas nouveaux. Récemment, l'Afrique du Sud a par exemple durci les normes d'hygiène après avoir promulgué des lois pour un meilleur encadrement. Mais les décès restent nombreux et pour la province du Cap-Oriental, il faut aller beaucoup plus loin avec des mesures extraordinaires, demande son chef traditionnel. Sa proposition, c'est donc un moratoire de 2 ans, s'asseoir autour de la table et régler ce problème une bonne fois pour toutes pour que ce rite d'initiation à l'âge adulte reprenne sans le moindre danger. Parmi les pistes, créer un tribunal spécialisé contre les pratiques illégales qui sont nombreuses et dangereuses, plus de pouvoir aux leaders traditionnels pour qu'ils soient de véritables acteurs dans la réglementation, un meilleur soutien médical dans chaque école d'initiation. Un appel à l'encadrement soutenu par le Conseil national de lutte contre le sida, pour qui il est important de faire évoluer les pratiques culturelles en s'intéressant davantage aux risques sanitaires. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Coup de projecteur à présent sur le musicien sénégalais Amadeus, finaliste du prix RFI Découverte en 2023. Le jeune homme de 30 ans a sorti en novembre un premier album. Taharou Sénégal est au croisement entre Mbalax traditionnel et Afrobeat actuel. Juliette Dubois l'a rencontré en studio à Dakar.
Voix de velours et bonnet vissé sur la tête, Saliou Samb, alias Amadeus, explique avoir choisi le titre Taharou Sénégal, beauté Sénégal en Wolof, en hommage au pays qu'il aime tant, mais aussi à ses aînés.
Aux musiciens qui ont tracé la route pour nous, des gens comme Youssou N'Dour, Koumba Gaoulo. Parfois je prends dans un son le passage de Koumba Gaoulo pour les rendre hommage. Parce que ce sont eux qui nous ont permis d'avoir le courage de choisir la musique et qui nous ont même fait aimer la musique. Elles sont bercées ma tendre enfance.
Amadeus veut aussi mettre en valeur les différentes régions du pays. Pour le tournage de son premier clip, Taharou Dounia, il s'est rendu dans le ciné-salon où il a mis à contribution des lutteurs traditionnels et des femmes qui